And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this?
A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy.
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds.
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets, and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Cet épisode du Super Athlétique est une présentation d'Athlétique.com, le plus grand magazine quotidien de sport en Amérique du Nord. Pour avoir toutes les histoires de sport qui comptent, vous pouvez présentement vous abonner grâce à notre offre spéciale de seulement $1.25 par mois. Tous les sports professionnels sont couverts, avec des analyses intelligentes, des exclusivités et, disons-le, une couverture sans pareil. Maintenant que le monde du sport a repris son plein élan, le moment est idéal pour vous abonner et économiser. On vous invite à découvrir la créativité, la démarche journalistique et les qualités de récit qui permettent à Athlétique de se distinguer des autres. Et si vous allez au athlétique.com/supportathlétique, vous pouvez obtenir un accès complet pour seulement $1.25 par mois. Athlétique s'est d'abord distingué par ses longs dossiers et ses portraits, mais des nouvelles fonctionnalités sur notre application permettent désormais de mettre en valeur les nouvelles de dernière heure qui font en sorte qu'Athlétique devient le seul endroit qu'il vous faut pour avoir l'heure juste à propos de vos équipes favorites. Athlétique. Toutes les histoires au cœur du sport. Émission du 15 septembre 2020, bienvenue au Super Athlétique. C'est Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu, qui nous rejoint en direct d'Edmonton. Monsieur Basu, comment allez-vous ce matin?
Ah, oh, ça va super bien. Edmonton, et il fait froid. Et,
oui?
Ouais, puis il n'y a pas de soleil, jamais. Mais à part ça, il y a du hockey à chaque soir, alors je suis content. Je suis heureux. Ça, je peux pas me plaindre.
Ben, écoute. La ville de Edmonton existe juste parce qu'il y a du sport, sinon il n'y aurait pas de raison que ça existe.
Oui, effectivement, mais honnêtement, mais en fait, en tout cas, hier soir, c'était super intéressant. On a eu une présentation du bol Clarence Campbell dans un édifice complètement vide et sans bruit, sans rien. C'était un peu...
surréaliste, peut-être?
Ben, pas mal. C'était, honnêtement, ouais. c'était bizarre. Alors, j'ai écrit un petit quelque chose là-dessus, mais c'était... ça nous a donné un avant-goût un peu de comment ça va être quand éventuellement la Coupe Stanley va être présentée dans le même édifice. Mais c'était weird. Honnêtement, c'est ouais. Il n'y avait pas de bruit. Et tu entendais la célébration des Stars complètement, parce qu'il n'y avait pas, à part un peu de musique, là, il n'y avait pas de bruit dans l'édifice, il n'y avait pas de foule, même si hier soir était techniquement un match à domicile pour les Golden Knights de Vegas, quand même, d'habitude, t'as un peu d'applaudissements de la foule locale pour, premièrement pour leur équipe qui termine leur saison, mais souvent, il y a un applaudissement au moins poli pour l'équipe visiteur qui vient de l'emporter, mais il n'y avait rien.
Il n'y en avait pas, là.
Il n'y en avait pas. Puis c'est drôle parce que la chanson du victoire des Stars, c'est « The House is Rockin'». Alors, ouais. Je sais pas comment tu traduis ça, mais c'est ce qui veut dire qu'une maison qui fait
beaucoup... Ça brasse dans la cabane.
Ça brasse dans la cabane, c'est ça. Puis ça brasse, c'est pas pantoute. Alors,
ben non.
C'était quand même assez... Assez cool comme expérience, honnêtement. Là, j'avais hâte de voir comment ça allait être, puis c'est ça. C'était weird. Comme 2020.
Je suis très content. Ouais, bien sûr. Quand un classique. Je suis bien content pour Rick Bonus également. C'était tellement un chic type, cet homme-là.
Oh, absolument.
Tu sais, puis je regardais son parcours en tant qu'entraîneur. Ce gars-là, il n'a pas hérité de grosses équipes au fil des ans, surtout comme entraîneur-chef, mais même avant qu'il devienne l'adjoint de John Cooper à Tampa, j'ai toujours eu des équipes assez médiocres. Puis d'avoir ce gars-là qui s'est retrouvé finalement à la tête des Stars de façon inopinée, on se souviendra que Jim Montgomery a dû céder sa place, des problèmes personnels qui ont fait en sorte qu'il a cédé sa place d'entraîneur-chef des Stars. Rick Bonus prend le relais comme intérim et puis finalement amène cette équipe-là de manière un petit peu imprévisible. Je pense pas que grand monde les voyait là, mais en tout cas, je trouve que dans la catégorie des bons gars et des gens, tu dis... Si c'est pas arrivé à quelqu'un, ce serait le fun que ça arrive à lui. Je pense que Rick Bonus est tout à fait dans cette catégorie-là.
Ah oui, à la tête de la liste. Puis honnêtement, ça fait 35 ans, plus ou moins, là, que ce gars-là est un entraîneur, plus souvent que non, un entraîneur adjoint. Mais de temps en temps, un entraîneur-chef. Puis dans tout ce temps-là, c'est seulement la troisième fois qu'il se rend en finale puis il a jamais remporté la Coupe Stanley. Puis de le faire avec cette équipe-là, quand même un parcours quand même assez improbable pour l'équipe des Stars de Dallas. Ben Bishop est blessé, il a pas joué pas mal, il a joué juste un match dans la série, et Anton Udobin joue honnêtement du hockey formidable, puis c'est une belle histoire pour lui aussi, un autre chic type que tout le monde adore. Et tu sais, il est sur le point d'être un joueur autonome sans restriction, alors c'est vraiment le meilleur parcours imaginable pour ce gars-là. Il va coûter très cher à quelqu'un une fois que la saison est terminée, mais tu sais,
est-ce qu'il peut rester à Dallas, penses-tu?
C'est pas probable. Très peu probable, parce que Ben Bishop est quand même sous contrat, il coûte cher. Anton Udobin va coûter très cher à quelqu'un, puis il le mérite. C'est vraiment, après les séries qu'il a connues, les Golden Knights de Vegas, là, ça fait deux fois de suite en fait qu'il y a un gardien qui les frustre. En fait, c'est drôle, mais les Golden Knights me rappellent un peu du Canadien, parce que c'est une équipe, pendant les séries, qui ont tout fait bien, tu sais, en termes de processus, là, tu sais, on parle tout le temps des processus contre résultats. Le processus des Golden Knights de Vegas est très fort, mais t'as toujours eu l'impression, tu sais, contre les Canucks, on parlait de leur manque d'offensive, puis Pete DeBoer, puis tous les joueurs étaient tout le temps en train de dire, si on continue à faire ce qu'on fait, les rondelles vont finir par rentrer dans le but. Puis contre Dallas, même affaire. Puis tu voyais que... Puis Rick Bonus l'a dit hier soir, il a été demandé clairement. Tu sais, tous les chiffres nous disent que Vegas aurait dû gagner la série en termes de tir au but, tentative de tir, temps de possession, tout ça. Et Bonus, très calmement, il a dit, mais toi, tu fais référence au tir au but. Nous, on fait référence aux chances de marquer. Puis en termes de chances de marquer, on était pas mal égal. Puis j'étais comme... Salut Claude? Claude Julien? Allô? mais
on a nos chiffres à l'interne, puis nos chiffres nous disent que...
Effectivement, mais tu sais, Vegas me faisait vraiment penser à Montréal, parce que c'est un peu le même discours qu'on entend chez le Canadien très souvent, puis ce qui est vrai d'une certaine façon, tu sais, les chiffres de possession, toutes les statistiques avancées nous suggèrent que le Canadien devrait avoir une meilleure fiche qu'ils l'ont eu cette saison. Mais finalement, le seul chiffre qui compte, en fin de compte, c'est le nombre de fois que tu mets la rondelle dans le filet. Puis pour Vegas, c'était pas assez souvent. Tu sais, ces deux chiffres-là étaient pas... il y avait pas un lien qui était évident. Tu sais, si tu fais telle chose, tu devrais avoir tel résultat, puis Vegas n'avait pas le résultat, mais honnêtement, c'était à cause du fait que tu tirais souvent des places sur la glace où tu marques pas de but, et puis il y avait de la misère à aller chercher des deuxièmes chances, des retours de lancer. Dallas, leur défense est tellement coriace, puis j'ai vraiment une appréciation pendant la série de S.L. Lindell, qui je pense est un des joueurs oui. Les plus sous-estimé de la ligue là. C'est défensivement, ce joueur là est vraiment solide, puis il joue un peu dans l'ombre de Miro Heskinen puis John Klingberg, qui sont plus adeptes offensivement, mais c'est vraiment un joueur que j'ai appris à vraiment apprécier pendant cette série là. Puis tu sais, Vegas, c'était très rare qu'ils ont eu... T'sais, Anthony Dobin a super bien joué, mais il n'y avait pas à faire des gros arrêts trop souvent. Et c'est un peu ça que, si j'étais Vegas, si j'étais Pete DeBoer, après, avec la tête froide, là, c'est de juste regarder ça puis dire, OK, peut-être qu'il y a des changements à faire, parce que pendant la série, il n'y avait pas l'air de penser qu'il n'y avait pas besoin de changer grand-chose, qu'éventuellement, ça allait fonctionner. Puis honnêtement, ça m'a fait penser du Canadien à chaque fois qu'il le disait, parce que le Canadien souvent dit la même chose.
Oui, chez le Canadien, c'est souvent de dire, on continue, si on continue de la même façon, les résultats vont finir par être de notre côté. En se fiant d'une certaine manière sur la loi de la moyenne, tu sais, que ça pourra pas toujours ne pas arriver, mais curieusement, l'histoire se répète, puis tu dis à un moment donné, OK, il y a une bonne portion de notre processus qui fonctionne, mais clairement, il y a quelque chose qui au bout de ce processus là qui n'arrive pas, tu sais, entre autres. Ben, je pense d'avoir suffisamment de joueurs capables de capitaliser sur des jeux. Ça devrait pas être un problème du côté des Golden Knights. Pourtant, je pense qu'ils devraient avoir suffisamment de joueurs capables de toucher la cible puis de marquer en temps et lieu, que ce soit Stone, Pacioretty, Carlson, Marchessault. C'est des gars qui sont capables de mettre la rondelle dans le fond du filet. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être à revoir au niveau tactique. Mais chez le Canadien, je pense que tout le monde s'entend pour dire que l'ajout d'un marqueur que serait bienvenu, puis c'est probablement la prochaine chose qu'on va surveiller durant l'entre-saison de Marc Bergevin. L'entre-saison qui est déjà passablement occupée. Tout à l'heure, tu parlais de statistiques avancées. Tu disais qu'elle semblait à l'avantage des Golden Knights, puis c'est les Stars qui ont gagné. Marc Bergevin a fait l'acquisition d'un défenseur, Joel Edmondson, dont les statistiques avancées ne sont pas du tout favorables. C'est pas le genre de gars qui peut se présenter sur la table de négociation en disant, regardez là, mes buts attendus ou mes ratios de Corsi sont X, Y, Z et ont de quoi se péter les bretelles. Est-ce que ça te dérange de voir qu'un défenseur à caractère défensif comme Edmondson démontre des chiffres aussi ordinaires au point de vue justement de la possession de rondelles, au niveau du fait que la rondelle semble plus souvent qu'autrement être en zone du Canadien quand il est là? Je sais que Ben Sherratt avait un petit peu le même problème quand il était à Winnipeg, puis ça finalement, on le voit à Montréal, même si ses chiffres, lui non plus, ne sont pas extraordinaires, il a donné quand même de très bons services et une très bonne saison aux Canadiens. Est-ce que tu penses que Marc Bergevin peut arriver à répéter la chose puis avoir le même genre de coup fructueux avec Edmondson qu'il a eu avec Ben Sherratt?
Ben, en fait, oui. C'est exactement pourquoi... C'est la raison pour laquelle je donne un peu le bénéfice de doute à Marc Bergevin. Tu sais, c'est quand même... C'est facile pour nous de regarder ces chiffres avancés, pour regarder tout ce qui est à notre disposition pour évaluer un joueur qu'on connaît pas super bien. Je me rappelle, tu sais, pendant le parcours des Blues de Saint-Louis jusqu'à la Coupe Stanley, c'est un joueur quand même assez important pour cette équipe-là. A été échangé contre un défenseur qui était un peu convoité. Tu sais, il y avait beaucoup d'équipes qui voulaient un gars comme Justin Falk. Ça marche ça marche pas très bien en ce moment à Saint-Louis, mais quand même, Edmonton faisait partie de cet échange-là. Elle jouait un rôle assez important à Caroline. 18 minutes et demie par match comme défenseur de troisième paire en Caroline, mais 23 quelques minutes en série. Était très fort en série, a connu des bonnes séries, même si Caroline, le parcours était pas très long, en raison, entre autres, de la blessure à Svechnikov, mais quand même, c'est rare que tu vois un joueur qui joue 5 minutes de plus en série qu'en saison régulière. Alors, clairement, Brad Brindamore puis son personnel d'entraîneur trouvait que c'était un joueur qu'il aimait en série. Et c'est un peu, tu sais, même si Caroline l'a échangé parce qu'il savait qu'il était pas capable de re-signer cet automne. J'allais dire cet été parce que, mais en tout cas, c'est plus le cas. Mais c'est ça, c'est je trouve que je vais attendre voir avant de faire trop de jugement, tu sais, parce que Ben Sherratt, la raison principale que je croyais l'été passé que Ben Sherratt, ça peut être une bonne embauche, c'est que les Jets de Winnipeg voulaient vraiment le garder. Et je me suis dit, OK, si les Jets, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à dépenser, trouvaient que c'était un joueur important au point où ils l'ont fait une offre, Ben Sherratt l'a rejeté, puis l'a rejeté pour un contrat qui est c'était pas comme faramine, tu sais, c'était pas un énorme contrat avec Montréal, c'était généreux, mais c'était juste 3 ans, tu sais, un peu plus de 10 millions. Alors, je me suis dit que, OK, si Winnipeg le voulait, il doit avoir quelque chose de là. Puis, honnêtement, on l'a vu jouer, puis oui, effectivement, ses chiffres sont pas super, mais il y a certaines choses qui fait en sorte que il aide le Canadien. Tu sais, son jeu physique, un joueur beaucoup plus habile offensivement que je croyais. Alors, c'est un peu pour ça que je dis que, OK, on va attendre. Ben, premièrement, on va attendre voir si les Canadiens sont capables, si les Canadiens sont capables de signer Edmonton. Mais s'il réussit à le faire, puis honnêtement, son contrat va déterminer beaucoup mon évaluation de cet échange-là parce que, tu sais, il a gagné 3,1 millions cette année, 3 millions l'année passée. Alors, tu sais, s'il signe un contrat qui est semblable à celui de Sherratt, je dirais, OK, ça fonctionne, mais beaucoup plus que ça, je pense que ça serait une erreur. Alors, on va attendre voir le contrat, mais pour l'instant, je suis pas prêt à critiquer la transaction parce que je pense, il me semble que Marc Bergevin est. Tu sais, c'est clair qu'il visait ce gars-là. Pour faire une transaction contre un joueur qui est sur le point de devenir agent libre, il faut vraiment que tu veux ce joueur-là. Alors, on va attendre voir. Puis, je pense que Marc Bergevin, avec ses transactions dernièrement, il mérite un peu de bénéfice de doute. Alors, on verra. Quand la saison prochaine va commencer, on verra.
Ouais, puis, tu sais, je pense que dans le cas d'Edmundson, ce qui m'intrigue, ce que j'ai hâte de voir, c'est dans quelle mesure est-ce que ce gars-là mérite le salaire qu'il reçoit. C'est-à-dire que c'est un défenseur qui, moi, selon des personnes à qui j'ai parlé, m'ont dit, tu sais, c'est vraisemblablement un défenseur de troisième duo. Si c'est ton défenseur numéro 5 dans ton alignement, est-ce que dans le contexte actuel, avec l'argent qui se fait rare un peu pour tout le monde, est-ce que tu consacres 3 millions de ta masse salariale à un défenseur de troisième duo? C'est pas évident. Jusqu'à maintenant, tous ces contrats ont été signés avec les Blues de Saint-Louis par un seul directeur général qui est Doug Armstrong. Alors, c'était clair que Doug Armstrong, lui, jugeait que Edmundson, c'était plus que ça, c'était plus qu'un défenseur de troisième duo. Il y a eu par moments, il a joué avec Alex Pietrangelo, il y a eu des minutes top 4 à Saint-Louis. Sauf que l'évaluation que fait un seul directeur général ne doit pas nécessairement, ça veut pas dire que c'est ce que ce gars-là est. Alors, tu sais, c'est pas parce qu'un directeur général lui a consenti des contrats qui l'ont amené à 3,1 millions par année que c'est nécessairement, de un joueur qui vaut 3,1 millions de dollars par année, et de deux, parce qu'il devient joueur autonome sans compensation, qu'il mérite d'avoir encore plus que ça. Alors, quand tu dis c'est c'est le montant du contrat qui va déterminer l'évaluation que je fais de cet échange-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le Canadien peut trouver une place pour un défenseur comme celui-là. Il est capable de jouer à droite. Il l'a fait de temps à autre parce que durant la période où Dougie Hamilton était blessé, il s'est retrouvé à la droite aux côtés de Jacob Slavin pendant un bout de temps. Mais c'est un gaucher. Il joue principalement à gauche. Puis c'est un gars qui joue en infériorité numérique. Et le Canadien a été, entre guillemets, forcé de se tourner vers Xavier Ouellet en séries éliminatoires parce que Xavier Ouellet était probablement leur meilleure option pour jouer en infériorité numérique au sein là, d'un deuxième duo de défenseurs. Mais là, d'avoir un gars comme Edmundson qui prendrait sa place, je pense qu'il y aurait quand même une amélioration de ce côté-là. Donc, il y a clairement un type de défenseur que Marc Bergevin recherche. Il veut ajouter du gros gabarit. Il veut ajouter des joueurs qui sont capables d'être des shutdown en zone défensive. Et je comprends dans quelle mesure cette acquisition-là pourrait se faire. Sauf que ce que je trouve dommage, c'est que le Canadien, qui est une équipe qui prône une transition rapide puis qui veut jouer avec un bon rythme, ne devrait pas laisser de côté un défenseur comme Brett Kulak, qui lui participe activement à la transition, qui est un défenseur mobile qui bouge bien la rondelle. Puis je pense que d'avoir des joueurs du type Sherratt, Edmundson, puis dans une certaine mesure Shea Weber également, comme ça, qui ne sont pas nécessairement des gars qui distribuent la rondelle beaucoup. Il me semble que ça va un petit peu à l'encontre de ce que le Canadien essaie d'établir en termes de production à l'attaque.
Mais en fait, sais-tu quoi? C'est un peu pour ça que je suis intrigué par la décision. Tu sais, on en a parlé sur le podcast aussi, là, c'est trop souvent le Canadien n'est plus une organisation innovateur. C'est souvent le Canadien suit la tendance dans la Ligue nationale, puis ils sont un peu en retard à le suivre. Là, la tendance dans la Ligue nationale de hockey, c'est d'avoir une défense mobile. Tu regardes les équipes qui restent en série. Vegas, ils ont Nate Schmidt, Shea Theodore, sont les deux défenseurs les plus importants de cette équipe-là. Deux gars très mobiles, très habiles offensivement. Dallas, j'ai déjà mentionné Lindell, mais Klingberg et Heiskanen sont parmi les meilleurs de la ligue en termes de mobilité, en termes de bouger la rondelle, de faire avancer la rondelle dans la bonne direction. C'est deux des meilleurs, puis c'est une grande raison pourquoi Dallas est rendu en finale de la Coupe Stanley. Tampa, même affaire. Victor Hedman est comme ça, puis joue le moitié du match. Puis c'est vraiment, puis même, Ryan McDonagh, c'est plus défensif, mais quand même. Puis Sergachev, évidemment, j'ai pas besoin de le mentionner aux partisans du Canadien, mais honnêtement, il connaît vraiment des bonnes séries, puis tant mieux pour lui, parce que le timing est bon pour lui aussi. Il y a un contrat qui s'en vient. Mais la tendance est vraiment ça. T'sais, Rick Bonus, j'ai écrit un texte là-dessus la semaine passée. Puis Rick Bonus a dit, les jours où tu peux avoir 4-5 défenseurs, stay at home, comme on dit en anglais, là, mais des gros gars qui jouent avec robustesse, mais qui patinent peut-être pas aussi bien, puis ne sont pas très habiles offensivement, ces jours sont terminés. Tu peux avoir peut-être un, deux gars comme ça. C'est ça qu'il a dit, là. Un ou deux, mais plus que ça, tu peux plus le faire. Le jeu est trop rapide, et c'est vraiment un sport où le hockey fait comme une transition à des défenseurs. Les jours où tu regardes des défenseurs qui pèsent 180 livres puis 5 pieds 11, là, puis tu dis dès le départ que non, tu peux pas jouer pour nous, on a besoin de plus de gabarit, plus de robustesse. Ces jours-là sont terminés. Tu regardes Cale Makar, Samuel Girard, il y a des joueurs, Roman Yossi, il y a plein de défenseurs qui ne fitent pas dans le moule de l'antan où... avoir un défenseur comme Samuel Girard, c'était super rare. Torey Krug va signer un contrat vraiment riche cet automne. Puis avoir un gars comme Torey Krug, comme un joueur de premier plan dans la Ligue nationale, il y a 30 ans, c'était impensable. Puis même, Torey Krug n'était pas repêché. Alors, je suis un peu pour l'idée d'aller à l'encontre de la tendance dans la Ligue nationale. T'sais, c'est comme, peut-être qu'il n'y a pas raison, peut-être que Marc Bergevin est en train de, je vais dire un anglicisme, manquer le bateau. Là. C'est comme, ouais, ouais. Mais c'est comme, mais j'aime ça.
Je pense pas que ce soit un anglicisme.
Oh non? OK. Non. Désolé. Mais tu sais, j'aime ça. J'aime que ces décisions sont pas déterminées par une tendance des autres équipes. J'aime quand un entraîneur ou un directeur général pense pour lui-même puis prend pas toutes ses décisions dépendamment de ce que toutes les autres équipes font. Alors, c'est... On verra avec Joel Edmondson, mais en principe, j'aime l'idée ou le principe d'aller contre les tendances actuelles dans la Ligue nationale, puis on verra ce que ça donne.
Bien, je pense que ça suggère à tout le moins que le directeur général est en accord avec la façon dont cette équipe-là est dirigée en termes de style de jeu, puis de la façon dont Claude Julien, puis Kirk Muller et les autres exploitent le groupe qu'ils ont sous la main pour essayer d'en soutirer le maximum. T'sais, tu peux pas... Si Marc Bergevin jugeait que son équipe avait besoin de faire un virage à 180 degrés sur le style de jeu de l'équipe, ben, il faudrait nécessairement qu'il apporte des sérieuses corrections sur le profil de joueurs qu'il amène à Montréal. Puis de se dire, ben, avec la quantité de joueurs autonomes que j'ai sous la main la saison prochaine, peut-être qu'il y a un certain ménage qui devrait être fait parce qu'il y aurait lieu de revoir notre façon de jouer. Mais si ça suit ta logique, puis dire, ben, il persiste dans une certaine vision qui, à mon avis, risque de plaire. Si jamais Joel Edmondson signe avec les Canadiens, je pense que c'est le gars qui, a priori, devrait plaire à Claude Julien. Ben, ils redoublent par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à ce qu'on a vu du Canadien jusqu'à maintenant, puis ils vont persister dans cette voie-là. Donc, c'est pas. Puis encore là, je reviens à la question de dire que le Canadien aurait peut-être besoin d'avoir des joueurs pour compléter leur jeu. Il y a quelques semaines, Jeff Petrie a dit: ouais, mais c'est bien beau de jouer défensif, mais à un moment donné, il va falloir qu'on trouve des façons de marquer plus de buts, parce que si on se retrouve en déficit de 2-0 à un moment donné, on n'a pas toujours les ressources pour pouvoir égaler la marque. Puis c'est plus une ligue de match de 1-0, il se marque plus de buts maintenant. Alors, il y a d'une part, tu as un directeur général qui fait des gestes, qui laisse croire qu'il est en symbiose avec la façon de diriger de son entraîneur. Mais il faut encore que ce système de jeu-là, ben les joueurs y adhèrent puis y croient. Puis avec des commentaires comme ceux de Jeff Petrie l'autre jour, ben je me dis, est-ce que dans quelle mesure les joueurs vont continuer d'être emballés par la façon de jouer du Canadien, puis est-ce qu'ils vont continuer de croire que c'est la meilleure façon qu'ils ont de pouvoir devenir une équipe compétitive?
Oui, mais tu sais, je dirais, peut-être que Jeff Petrie a besoin de regarder les Stars de Dallas. Pour c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts malgré du talent offensif, je dirais comparable aux Canadiens, peut-être un peu meilleur, mais tu sais, les jours où Tyler Seguin et Jamie Benn étaient des joueurs de premier plan dans la Ligue nationale sont pas mal terminés là, sont pas des super vedettes, mais c'est une équipe qui est défensive surtout. Tu sais, c'est vraiment une équipe qui se fie sur leur défense, puis sur le jeu de transition un peu, pour marquer leur but. Et vraiment, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Là. C'est vraiment... Puis ils ont été capables de marquer des buts dans la dernière ronde contre l'Avalanche de Colorado, mais honnêtement, c'est... Tu sais, ils ont éliminé l'Avalanche de Colorado, que je pense que plusieurs personnes, moi inclus, croyaient avaient une chance légitime pour remporter la Coupe Stanley. Puis là, oui, il vient d'éliminer les Golden Knights de Vegas, qui a été un autre favori pour remporter la Coupe Stanley. Puis ils l'ont fait avec un système, contre Vegas en tout cas, un système qui était surtout défensif et était très similaire au principe que Claude Julien utilise avec le Canadien, tu sais, tuer des jeux, donner des tirs de périmètre, tu sais, défendre le milieu de la glace. Sont tous des principes que Claude Julien croit. Alors, je sais pas, tu sais, c'est difficile à dire. Mais c'est clair que le Canadien a besoin de développer des marqueurs de but. Ça, c'est clair. Tu sais, le manque de finition, comme on dit souvent avec le Canadien. Mais je ne suis pas certain que c'est le système de jeu qui fait défaut. Je pense que c'est juste... C'est une manque de personnel qui sont capables de le mettre dedans. Surtout.
Mm-hmm.
Mais tu sais, je suis d'accord, tu sais, quand j'ai entendu Jeff Petrie dire ça, j'étais un peu surpris parce que, honnêtement, le Canadien passe la plupart de son temps en zone offensive. Mais c'est ça, je pense que ils ont besoin de plus de personnes comme Brendan Gallagher. Et Brendan Gallagher est quelqu'un qui a jasé un peu de son avenir puis l'avenir du Canadien. Lundi, puis on va en discuter de ça après la pause.
Il n'y a rien de plus vital que de boire de l'eau. Ça, tout le monde sait ça. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais il n'y a aussi rien de plus facile que d'oublier de boire de l'eau. Est-ce qu'il faut vraiment que j'attende d'avoir la bouche pâteuse, la gorge irritée ou que je me mette à halluciner des oasis pour me rappeler que je dois boire de l'eau? Je me fais de l'eau pétillante de temps en temps, ça m'encourage à boire plus, mais il y a des moments où je suis déshydraté. Et je ne suis pas le seul, 3 personnes sur 4 souffrent à un moment donné de déshydratation. Or, les produits électrolytes Liquid IV vous donnent le meilleur moyen de rester hydraté. Ça vous permet de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie, ça renforce votre système immunitaire, ça vous rééquilibre comme vous devriez l'être. Non seulement en vous réhydratant, mais en vous donnant des vitamines et des minéraux essentiels dans des breuvages qui ont des saveurs différentes. Liquid IV est disponible partout au pays, entre autres chez Costco, mais vous pouvez aussi vous procurer leurs produits en allant au liquidiv.com. Vous obtiendrez 25% de rabais en utilisant le code promotionnel ATHLETIC, en anglais, donc ATHLETIC. C'est 25% de rabais sur n'importe quelle commande que vous passez, en allant au liquidiv.com. Et en utilisant le code promotionnel ATHLETIC. À votre santé! Trouver des vêtements ajustés à votre corps peut parfois être compliqué. Prenez-moi par exemple, j'ai beau avoir un corps d'Adonis, j'ai pas nécessairement les plus longues jambes, et trouver des vêtements proportionnés, c'est pas toujours évident. Et puis nulle part, on fait du 35, il faut choisir entre du 34 et 36, ça me prendrait du 35. Les vêtements Indochino sont spécialisés dans les vêtements faits sur mesure. Ça peut être des vêtements chics pour des occasions spéciales, ça peut être des vêtements pour le bureau ou des tenues beaucoup plus relaxes. Mais avoir quelque chose qui est ajusté, qui est fait pour toi, ça fait toute la différence. Je sais que quand je vais me remettre à couvrir des matchs de hockey sur place, la pandémie va avoir fait en sorte que certains vêtements, certains vestons ne me feront plus. Mais au lieu de faire 12 000 magasins pour les remplacer, je vais pouvoir avoir une consultation virtuelle avec les stylistes d'Indochino pour me trouver de nouveaux habits. Ils vont pouvoir m'aider à trouver des vêtements qui peuvent à la fois être raffinés et faciles à porter. Parce que être chic, ça ne veut pas dire être coincé dans ses vêtements. Indochino propose des complets sur mesure à partir de 299 $. Hey, c'est pas cher, là. Tout est fait sur mesure. Le choix du tissu, la doublure, la forme du revers de veste. Vous pouvez personnaliser vos vêtements au lieu de vous contenter de trouver quelque chose qui attend sur les cintres d'un magasin. Alors, visitez l'une des boutiques Indochino n'importe où en Amérique du Nord ou alors réservez votre rendez-vous virtuel en allant au indochino.com. Et en ce moment, vous pouvez obtenir 30 $ de rabais sur n'importe quel achat de 399 $ ou plus en entrant le code promotionnel Craig. Hein? Craig? Comme dans Craig Costens, mon collègue d'Athletic. À moins que ce soit Craig Rivet ou bien Craig Ludwig. En tout cas, peu importe. Profitez d'un rabais de 30 $ en allant au indochino.com, code promotionnel Craig. Donc oui, Brendan Gallagher. Écoute, je trouve qu'il a été il a été très intéressant dans les propos qu'il a tenus durant sa conférence téléphonique de lundi. Il articulait très bien, heureusement, pour un gars qui commence à peine à remanger solide puis qui arrête de bouffer à la paille, c'est une bonne chose.
Ouais.
Mais c'est un gars qui... ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ses propos, C'est clairement l'opposition avec ce que justement on a pu entendre, que ce soit de Jeff Petrie ou encore de Philippe Dano dans leurs entrevues respectives dans les semaines précédentes, c'est que lui aussi, comme Dano, comme Petrie, se retrouve joueur autonome à la fin de la saison prochaine, et sa priorité numéro un, c'est de pouvoir gagner. C'est pas nécessairement l'argent, c'est pas le rôle qui va avoir un rôle prédominant au sein de l'équipe, c'est est-ce que l'équipe avec laquelle je vais m'engager à long terme peut me permettre d'avoir des chances de gagner, parce que ce que je veux, c'est qu'on se souvienne de moi comme étant un gagnant. Puis j'ai trouvé que c'était des paroles inspirantes, puis qui en disent long sur le genre de gars qu'est Brendan Gallagher. Puis je pense que c'est ça force le Canadien à dire « OK, bon, mais nous, si on a des arguments de vente, il va falloir qu'on démontre à Gallagher qu'on sait où on s'en va, puis qu'on a un plan, un chemin pour se rendre jusqu'à la victoire. »
Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est... Honnêtement, tu sais, on parle souvent du fait que Carey Price, il a 33 ans, Shea Weber a 35 ans, il faut que le Canadien gagne avant qu'il devienne trop vieux, puis tout ça. Puis c'est vrai, ça demeure vrai. Mais c'est clair que Marc Bergevin, au cours des dernières années, a été forcé à vendre une certaine vision à ces deux gars-là, pour dire que c'est ça le chemin que je m'attends, c'est ça le chemin que j'ai planifié pour nous rendre une équipe compétitive. Mais après avoir entendu Gallagher, c'est pas seulement Gallagher, là, c'est honnêtement, il faut se rappeler, Philippe Dano, il y a 3 semaines, parlait de son rôle avec l'équipe, puis que le fait que son rôle va déterminer d'une certaine façon son désir de re-signer avec le Canadien. On parle de Jeff Petrie aussi est rendu dans la trentaine, il n'a jamais remporté la Coupe Stanley, lui aussi, j'imagine, aimerait ça voir un chemin vers une éventuelle opportunité de remporter ce trophée-là et d'avoir son nom là-dessus. Tu sais, les gars, ils se rendent dans la trentaine, puis ils ont certains buts, certaines rêves qu'ils aimeraient ça accomplir, dans le fond. Et tu commences, quand tu commences à penser à des contrats comme ça, parce que honnêtement, souvent, c'est une fois dans ta vie que tu te rends ici. Tu sais, pour Petrie, c'est sa deuxième contrat comme joueur autonome, mais pour Gallagher, pour Dano, c'est vraiment leur opportunité qu'ils ont travaillé toute leur vie pour connaître et pour se rendre ici, pour signer le gros contrat. Mais tu sais, les propos de Gallagher, là, il parlait pas de son rôle. En fait, il a fait l'inverse de Philippe Dano, dans le sens où lui, il dit que si moi, je joue un rôle moins important, ça veut dire que notre équipe est meilleure. Ça veut dire que notre équipe est rendue à un endroit où on peut penser ou aspirer à remporter la Coupe Stanley, alors ça va faire mon affaire. Si moi je joue sur un deuxième trio ou troisième trio, tout ce que ça veut dire, c'est pas moi qui est devenu... C'est pas moi qui est comme... Qui a perdu son jeu, ou c'est pas moi qui est un pire joueur qu'avant. C'est le fait qu'on a eu des... Ça veut dire qu'on a eu des meilleurs joueurs qui ont mérité le temps de glace que moi j'avais auparavant. Et ça veut juste dire qu'on a une meilleure chance de gagner. Alors, ça ne me dérangerait pas. Et c'est des propos que j'aurais aimé ça que Philippe Dano dit. c'est surtout ça le but du Canadien. On a souvent dit qu'une fois que le Canadien est rendu dans une position où Philippe Dano, c'est leur troisième joueur de centre, ça va dire que le Canadien est rendu à une place où on peut commencer à penser, on peut croire ou penser que cette équipe-là est dans une position de remporter une Coupe Stanley. Et c'est exactement ça ce que Brendan Gallagher a dit, mais c'est ça, c'est pour ça, tu sais, puis le texte que j'ai écrit hier, ça mentionnait ça, tu sais, c'est non seulement Gallagher parlait souvent du fait que, puis lui a dit qu'il y a un sentiment d'urgence cette saison parce qu'il faut qu'on prouve qu'on mérite de rester ensemble comme groupe. Mais à mon avis, il y a une certaine preuve que Marc Bergevin doit faire aussi auprès de ces gars-là pour leur montrer que Montréal, c'est la bonne place. T'sais, tu devrais rester à Montréal, tu devrais re-signer avec nous, les gars qui veulent re-signer, parce qu'on a un plan, puis on le met en marche. Et voici comment on va remporter la Coupe Stanley. Tu sais, ça fait plusieurs années, je pense, que Marc Bergevin explique ce plan-là à Carey Price et Shea Weber. Et sans trop l'expliquer à nous, au public, ce que j'ai aimé dans ton texte de hier, mais c'est ce plan-là, il doit le vendre maintenant à 5 autres gars qui auront une option l'année prochaine, que si le plan n'est pas à leur satisfaction à Montréal, ils peuvent aller chercher un plan ailleurs qui leur montre un chemin vers leur nom être mis sur la Coupe Stanley.
Ben écoute, il y a une seule Coupe Stanley qui se gagne par année. Il y a bien des joueurs de grand talent qui prennent leur retraite sans jamais avoir gagné ce trophée-là. Mais sans nécessairement, je pense pas que Marc Bergevin puisse promettre à ses joueurs « On a un plan pour se rendre jusqu'à la Coupe Stanley, mais il faut au moins avoir un plan pour s'en approcher. » Et je m'interroge à savoir si ce plan-là existe pour vrai. Si ça se peut de pouvoir aménager dans le contexte actuel le Canadien d'une telle façon que ça en ferait une équipe compétitive à court terme. C'est tellement... Tu sais, tu regardes les séries cette année, les équipes qui sont retrouvées en finale d'association l'année dernière, il y a très peu de cohérence, il y a très peu de constance aussi dans ce qui fait d'une équipe une prétendante à la Coupe Stanley, ce qui lui permet de le demeurer d'année en année. Ceux qui passent le plus proche, probablement, c'est le Lightning de Tampa Bay, mais c'est une équipe qui, il n'y a pas si longtemps, a raté les séries. Une autre année, ils se sont fait éliminer en première ronde. Sauf que de bâtir une équipe que tu dis, OK, cette équipe-là, c'est une prétendante à la Coupe Stanley d'année en année, j'ai l'impression que ça devient un peu... Un rêve ou une absurdité parce qu'il y a, il y a tellement de parité puis ça tient à tellement peu de choses de déterminer si tu vas être capable de faire une longue route en série ou si ça va s'achever après 4 ou 5 matchs que dans ce contexte-là, comment en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant d'équipe, tu peux dire, OK, avec les éléments que j'ai sous la main, là, je peux réussir à amener mon équipe pour en faire une prétendante à la Coupe Stanley suffisamment pour pouvoir convaincre ces gars-là de rester avec nous puis de dire ouais ok je vois où est-ce qu'il s'en va puis j'achète ça, tu sais. Alors il me semble que parce que le Canadien n'est pas à un joueur de pouvoir devenir le Lightning de Tampa Bay, on s'entend là.
Non ça c'est clair, mais je dirais que tu sais ce qui fait en sorte que le Lightning et le Lightning, c'est un joueur comme Braden Point. Braden Point, Nikita Kucherov sont des gars qui ont été repêchés plus tard dans le repêchage, qui ont trouvé, qui ont développé, puis sont des super vedettes en ce moment. Et c'est ça que le Canadien a besoin de faire. Puis il faut espérer, si t'es le Canadien ou si t'es un partisan du Canadien, que le, tu sais, leur pipeline d'espoir en ce moment, qui vont dénicher un ou deux ou même trois joueurs de ce tremple-là parmi ce groupe-là. C'est vraiment la seule façon que les Canadiens vont se rendre à leur destination, vont être capables de dire que notre plan a fonctionné. C'est si un joueur, tu sais, deux, même trois joueurs qu'on ne connaît pas encore c'est qui. À part Suzuki et Kotkaniemi, c'est clair. T'sais, ces deux gars-là, ils ont besoin que ces deux gars-là fonctionnent. Ils ont besoin que ces deux gars-là deviennent leurs deux premiers centres et qu'effectivement, qu'ils poussent Philippe Danault plus bas dans l'hiérarchie au centre de la glace. Mais aussi que quelqu'un comme un Caulfield ou le joueur qui repêche cette année ou tu sais, un Romanov, un Struble... Tu peux nommer 5, 6, 7 gars qui ont en ce moment qu'on ne connaît pas leur vrai potentiel, mais que le Canadien croit en eux. Et il faut absolument qu'ils trouvent que, tu sais, un de ces gars-là, à part Kotkaniemi et Suzuki, peut-être même deux, deviennent vraiment des joueurs de premier plan dans la Ligue nationale. Puis c'est un peu là-dessus que Marc Bergevin se fie, là, parce qu'il voit que c'est pas en signant des joueurs autonomes, c'est pas en faisant trop de transactions, c'est vraiment par le repêchage qu'il faut le faire. Et tu regardes les équipes qui restent, chacun de ces équipes-là, leur noyau a été bâti par le repêchage. Là, c'est primordial. Et c'est la seule façon de le faire. Et pendant trop d'années, les Canadiens l'ont pas fait. Ils ont échangé des choix de deuxième ronde trop souvent. Ils ont vraiment misé sur peu de choix ou peu d'or, disons, au repêchage. Et les deux, trois dernières années, incluant cette année, la philosophie d'augmenter le nombre de d'or qu'ils ont à leur position est une bonne stratégie, une bonne philosophie. Mais c'est vraiment ça qu'il faut que ça commence à montrer des résultats quand même assez bientôt. Puis en commençant avec cette saison qui s'en vient. Il faut que Suzuki et Kotkaniemi continuent leur progression qu'on a vue en série, puis qu'ils deviennent ces joueurs-là. Il faut... Romanov va faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Caulfield n'est pas très loin, puis honnêtement, avec l'incertitude qui règne dans la NCAA en ce moment, qui sait? Ça se peut qu'on verra Caulfield à un moment... En fait, peu importe ce qui arrive dans la NCAA, on va voir Caulfield à Montréal à un moment donné cette saison-là qui s'en vient. Ça va être ou après sa saison à Wisconsin, ou peut-être même... au milieu de la saison. Ça se peut que Caulfield joue dans la Ligue américaine cette année, là, s'il joue pas à Wisconsin, en raison de l'incertitude à sa saison. Jesse Ullinen, on n'a pas pu le voir à Laval à cause de la pause de la saison, de la Ligue américaine, mais c'est un autre joueur qui est là, qui est prometteur, qui doit faire ses preuves, mais c'est Struble, Jordan Harris, Matthias Norlander éventuellement, ces joueurs-là doivent commencer à arriver puis avoir un impact dans la Ligue nationale. Puis c'est ça, c'est pour ça que, à mes yeux, la saison qui s'en vient, on va peut-être avoir un avant-goût de ça en regardant les saisons de la saison recrue de Romanov, puis les saisons de Suzuki et Kokami, s'ils sont capables vraiment de continuer le parcours et de démontrer d'une façon plus convaincante et sur une période plus longue ce qu'ils ont démontré pendant les séries cette année.
Oui, si, je pense que à ce niveau-là, il y a Trevor Timmons va être forcé de livrer la marchandise justement avec des choix repêchage peut-être un petit peu plus loin. Tu sais, pour reprendre l'exemple du Lightning de Tampa Bay, quand tu regardes des choix qui ont été faits après la première ronde, non seulement ils ont tablé sur leur choix de première ronde au fil des ans, mais tu sais, Braden Point est un choix de troisième ronde. Anthony Cirelli, c'est un choix de troisième ronde. Kucherov, c'est la fin de la deuxième ronde. Cédric Paquette, c'est la quatrième ronde. André Palate, la septième. Tu sais, c'est des gars qui...
Killorn aussi. Extrêmement... Killorn, c'était première ronde.
Killorn également.
Non, deuxième.
Killorn ronde. Également, ouais. C'est ça. Killorn, troisième ronde.
Troisième
Killorn.
Ronde, ouais. Alors, c'est ouais. Ça.
Alors, tu sais, tous ces gars-là, c'est extrêmement payant pour une organisation si tu dis, ben, c'est notre d'or, pour reprendre ton expression, ben c'est pas seulement notre choix de première ronde, c'est tous ceux qui viennent après, puis à la quantité de choix que le Canadien a eu au cours des dernières années, puis ça va se poursuivre au repêchage dans trois semaines. Il faut que tu touches le bullseye avec certains de ces dards-là, parce que c'est là la clé. Sinon, t'es pas en mesure... C'est sûr que tu vas pouvoir rajouter des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale, mais à un moment donné, d'avoir des défenseurs numéro 5 ou 6 ou avoir des gars qui vont jouer sur ton troisième trio, c'est bien beau. Ça va ajouter de la profondeur, puis ça va te permettre peut-être d'avoir un petit peu... Un petit peu d'harmonie au niveau salarial pour éviter de surpayer des joueurs de soutien. Je comprends tout ça. Sauf que véritablement des joueurs d'impact, il faut que tu sois en mesure d'en dénicher à un moment donné, à quelque part dans ton repêchage. Puis le Canadien, depuis Brendan Gallagher, justement en cinquième ronde en 2010, il n'y a pas vraiment eu ce genre de joueur-là. Et cette absence-là, je pense, se fait sentir. Alors, d'une part, il y a la capacité soit d'en dénicher parmi ceux qui sont déjà repêchés puis qui vont pouvoir s'illustrer. Tu mentionnais Mathias Norlinder, des gars comme ça. Ça, d'une part, il y a ça. Il y a aussi au sein du repêchage qui s'en vient. Également de voir dans quelle mesure ces gars-là seraient capables de s'illustrer et de venir s'impliquer assez rapidement. Parce qu'il y a toujours... Tu sais, on a vu durant les séries éliminatoires quand même un signal qu'il pourrait y avoir un mariage finalement qui se ferait entre la génération de Weber et Price et puis la contribution de jeunes joueurs comme Suzuki et Kotkaniemi. Finalement, ça se peut que ce ne soit pas si dysfonctionnel, que ça puisse s'arrimer ensemble et qu'on ait en même temps des années de production, de bons rendements de Price et Weber avec Kotkaniemi et Suzuki qui contribuent déjà. Sauf qu'il y a quand même un impératif de temps, à mon avis. Il y a quand même une relative urgence que le niveau de talent augmente pour que au sein de ce groupe-là, pour que tous les morceaux tombent en place puis que tout le monde puisse contribuer au même moment. Puis si tu as des joueurs qui peuvent justement émerger, des espoirs qui émergent assez rapidement, puis tu dis, ah tiens, lui, on ne l'avait pas vu venir, mais 2 ans ou 3 ans après son repêchage, il est en mesure d'être un joueur d'impact. Mais ça, c'est le genre de choses, à mon avis, qui ferait toute la différence dans l'organisation.
Oui, absolument. Puis honnêtement, quand Brendan Gallagher parlait lundi, ça m'a fait penser à un commentaire de Price de l'été passé à Kelowna. Je vais le lire. T'sais, nous avons un bel avenir avec nos espoirs, mais quand j'y pense, je revois ma carrière, le nombre de joueurs qui sont allés et venus. C'est beau d'avoir de la profondeur dans notre système, mais pour moi, personnellement, quand je suis sur la glace, ça n'a pas d'importance jusqu'à ce que je vois quelqu'un dans notre formation. Puis c'est vraiment ça qui est le clé. C'est Brendan Gallagher, il approche la trentaine, puis je pense qu'il peut voir un gars comme Weber, un gars comme Price, qui sont rendus où ils sont rendus dans leur carrière, qui cherchent toujours à cette récompense-là, à cette but final-là de remporter une Coupe Stanley. Puis il doit se dire que moi, je veux pas être dans cette position-là. Tu sais, moi, ça me tente pas d'être sur le dernier droit de ma carrière, puis à chaque année, espérer avoir une chance de remporter la Coupe Stanley. Moi, je veux savoir que mon équipe a une véritable chance, une opportunité de le remporter. Et c'est un peu ça le but du commentaire de Price, c'est que, tu sais, parle-moi pas des espoirs, là. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ma carrière, pour ma vie. Et mes espoirs à moi ont rien à voir avec les espoirs qui s'en viennent dans l'organisation. Moi, j'ai besoin de voir des joueurs. Moi, j'ai besoin de voir des joueurs de la Ligue nationale. Et c'est un peu ça que Marc Bergevin doit faire. Alors, encore une fois, je suis d'accord avec la philosophie puis la stratégie de se miser sur des jeunes puis d'augmenter le choix de repêchage. Mais cette entre-saison-là, qui est comme le plus... c'est le terme, le meilleur terme pour ce qui s'en vient, entre-saison, parce que ça va être vraiment rapide. Mais Marc Bergevin va avoir une certaine preuve à faire pour... Tu sais... Ajouter des joueurs de soutien. T'sais, c'est comme et quand je dis joueurs de soutien, je veux pas dire des plombiers de quatrième trio. Là. Je veux dire des joueurs de talent qui vont leur donner l'opportunité d'avoir non seulement une équipe qui est capable de compétitionner, mais avoir une équipe qui est capable, qui va pas se couler complètement une fois qu'il y a une blessure ou deux. Là. Tu peux pas avoir une équipe de la Ligue nationale qui perd leurs 8 derniers matchs aussitôt qu'il y a un ou deux blessures à des joueurs qui étaient quand même importés, mais pas des joueurs vraiment clés dans la formation du Canadien. Tu sais, qu'on parle de Jonathan Drouin et Paul Byron, oui, ce sont des joueurs importants, mais c'est pas comme ici, on a perdu Shea Weber et Carey Price, là. C'était pas leur joueur le plus important. Mais ça a juste pris ces deux blessures-là pour que la saison du Canadien coule dans l'eau complètement, là. Alors, il y a une certaine profondeur que Marc Bergevin doit bâtir pendant l'entre-saison, en faisant des transactions stratégiques, embaucher des joueurs autonomes, pas de premier plan, mais un peu comme il a fait avec Sherratt l'année passée, et peut-être qu'il est sur le point de faire avec Edmondson, mais vraiment ajouter autour de son noyau, autour de son groupe, puis faire en sorte que les jeunes vont arriver dans une équipe qui est prêt à les accueillir d'une certaine façon.
Écoute, en terminant, je voulais te ramener sur un... Puisque là, ça fait quelques jours qu'on n'avait pas eu de podcast, puis entre-temps, il y a quand même eu un élément de nouvelle un peu croustillant. C'est des rumeurs d'échange entourant Philippe Dano. On a abondamment parlé du cas de Max Domi dans nos épisodes précédents, mais dans le cas de Dano... Moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a personne du côté du clan de Philippe Dano qui est véritablement surpris que ces rumeurs-là aient émané. Donc, on rappelle, là, c'est Elliot Friedman qui, à la radio de Buffalo, est allé dire que le Canadien considérait ou testait, et je pense que le Canadien teste le marché pour Dano autant que pour Domi. Ça ne veut pas dire que Dano va être échangé, mais que c'est quelque chose qui... c'est une considération qui est en cours au sein de la direction du Canadien. Qu'est-ce que tu fais de cette rumeur-là? Moi, je vais te dire d'entrée de jeu que même si je ne veux pas remettre en doute le fait que ce soit quelque chose qui soit considéré, je ne pense pas du tout que ça va arriver, mais je serais curieux de t'entendre, de savoir comment tu approches la perspective que le Canadien puisse justement tester le marché pour Philippe Dano.
Ben c'est clair que Philippe Dano, c'est un joueur rentable dans le sens où si tu le rends disponible sur le marché des transactions, tu sais, il faut donner quelque chose pour obtenir quelque chose, ça c'est clair, et Philippe Dano, tu pourrais obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant avec Philippe Dano que Max Domi. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Ceci étant dit, Philippe Dano, c'est le type de joueur que toutes les équipes veulent. La raison pour laquelle il y a une grande valeur sur un marché de transactions, c'est parce que c'est un joueur que chaque équipe adorait avoir dans sa formation, et je pense que le Canadien s'est inclus là-dedans. Je pense qu'à cause... Tu sais, ça me surprendrait pas que Marc Bergevin, tu sais, il va vouloir savoir qu'est-ce qu'il peut obtenir pour chacun de ses joueurs autonomes à venir. Là, ça serait juste normal. Et en fait, ça serait irresponsable de faire autrement, de pas savoir qu'est-ce que même un Brendan Gallagher pourrait ramener dans une transaction. Un Armia, un Tatar, un Petrie, tu sais, il doit avoir cette information-là pour évaluer si le Canadien serait en meilleure position s'il re-signe ces joueurs-là ou s'il ramène d'autres joueurs en retour dans une transaction, et c'est ça le moment de le faire. Si c'est ça que Marc Bergevin veut faire, c'est le moment est là. C'est parce que, dans le fond, le faire à date limite des transactions, tu vas pas obtenir un joueur que tu peux mettre dans ta formation tout de suite, là, parce que rendu à date limite de transactions, tu fais affaire avec des équipes qui ont des espoirs de remporter la Coupe Stanley, puis ils seront pas sur le point de donner leur joueur qui joue, là. Et c'est ça que Marc Bergevin doit chercher si jamais il échange aucun, tu sais, n'importe quel de ces cinq joueurs-là. Il faut qu'il faut un peu répliquer l'échange de Max Pacioretty dans un certain sens. C'est avoir un espoir et un joueur de remplacement. Alors, moi, je pense que les rumeurs qui ont sorti concernant Philippe Dano sont un résultat de ses propres commentaires il y a quelques semaines. Quand lui-même, il dit que j'aime pas que mon rôle change et que si mon rôle change trop, je vais peut-être quitter puis je vais peut-être aller jouer ailleurs. C'est certain qu'il y a des DG autour de la Ligue entendent ça, puis commencent à faire des appels. Puis commencent à mentionner le nom de Philippe Dano à des journalistes pour dire « Hey, j'entends le nom de ce gars-là, ça se peut qu'il soit disponible. » Est-ce qu'il est disponible parce que Marc Bergevin est en train de faire ces appels-là ou parce qu'il reçoit des appels sur Philippe Dano? Moi, je pense que c'est surtout le deuxième cas. Et ça serait, encore une fois, irresponsable de la part de Marc Bergevin de ne pas écouter pour voir effectivement c'est quoi la valeur de ce joueur-là sur le marché pour faire cette évaluation-là. Mais moi, je serais quand même assez surpris si Philippe Dano n'est pas dans l'uniforme du Canadien une fois que la saison prochaine commence.
Oh, c'est clair. Moi également, là, je te rejoins entièrement là-dessus. Puis je pense que, tu sais, quand Dano a parlé, il a parlé avec son cœur. C'est un gars quand même assez émotif. Puis
il est franc.
Il n'a pas énormément le filtre. Là, ouais. Il est franc, puis il dit le fond de sa pensée. Mais en même temps, il y a tout un processus qui a cours quand tu t'apprêtes à signer un nouveau contrat. Puis surtout quand tu es en position de signer un contrat à long terme avec l'équipe pour laquelle tu évolues déjà, tu connais un certain nombre de paramètres, tu es familier avec cet environnement-là. Mais il faut que tu te poses une série de questions par rapport à dire, OK, est-ce que je veux rester au sein de cette équipe-là? Tout à l'heure, on disait, bon, est-ce que par rapport à Gallagher, est-ce que le plan qui pourrait amener un scénario amenant le Canadien vers les grands honneurs, est-ce que c'est quelque chose qui serait crédible aux yeux de Gallagher? Mais Philippe Dano doit lui aussi se poser un certain nombre de questions, puis il doit aussi évaluer quelle est sa véritable valeur au sein du sur le marché. C'est-à-dire que lui, il a peut-être une certaine perception de ce qu'il vaut à l'échelle de la Ligue nationale, mais dans ses conversations avec son agent, à un moment donné, si lui part en orbite puis il s'imagine qu'il est un premier centre de la Ligue qui mérite 7,5 millions par année, ben Don Meehan va s'asseoir avec lui puis il va dire, écoute Philippe, tu vas avoir un dur retour sur Terre si c'est ce que tu cherches. Don Meehan ne va pas simplement dire, OK, c'est ça que tu veux? Fine, je vais aller te le chercher. C'est comme un avocat qui représente un client. Il faut que l'avocat sache quelles peut être en bout de ligne les chances d'obtenir le verdict que tu veux avoir. Puis si tu veux avoir un verdict de non-culpabilité, quelles sont tes chances? Puis sinon, il faut que tu t'organises pour minimiser le verdict de culpabilité, mais tu peux pas simplement avoir la tête baissée puis dire OK, on fonce, puis advienne que pourra. Et je pense que Don Meehan ne va pas simplement exécuter ou faire ce que le joueur lui demande. Il va aussi lui dire sais-tu quoi, Philippe? Je pense que ta braquette de valeur se situe plutôt à tel niveau. Puis ça, je pense que s'il y a un rééquilibrage de cette évaluation-là qui se faut, puis si ça doit prendre au-delà de l'entre-saison, si ça doit se dérouler durant l'année, ça prendra le temps que ça prendra. Mais sauf que je pense que si Philippe Dano réajuste ses attentes quelque peu, puis dit, sais-tu quoi, ma position ou mon rôle chez le Canadien va me convenir, puis je vais être capable d'avoir une entente qui me satisfait. Écoute, ça serait tellement gagnant-gagnant pour le joueur comme pour l'organisation, parce que le Canadien forme une bien meilleure équipe avec Philippe Dano dans sa formation. Puis, comme tu le disais tout à l'heure, le jour où il va devenir un joueur, le meilleur troisième centre de la Ligue, ça va être le signe que le Canadien est rendu à un autre niveau. Puis je pense qu'il doit l'équipe doit bâtir et prendre ses décisions de façon justement à préparer le terrain pour qu'on en arrive là, puis dire on a deux jeunes centres qui sont extrêmement prometteurs, mais on a une extraordinaire police d'assurance, un gars qui a montré qu'il était capable de faire le travail sur un top 6, qui peut faire une tâche défensive extraordinaire pour nous, puisque là, on se cachera pas, là, si le Canadien décide de se mettre en tête d'échanger Philippe Dano pour aller chercher un marqueur, les tâches défensives que Dano prenait, qui va les prendre après? Est-ce que ça va être Suzuki? Est-ce que ça va être Jake Evans? Tu vas vraiment les assignations défensives, tu vas vraiment les donner à des gars de deuxième année. Puis si jamais Suzuki se montre à la hauteur défensivement, est-ce que ça va pas le menotter un petit peu à l'attaque? Peut-être que finalement, ce serait déshabiller Paul pour habiller Jacques de se départir de Dano, parce que tu te retrouverais à en demander beaucoup à de jeunes joueurs qui vont avoir quand même besoin d'être encadrés la saison prochaine.
Oui, puis soyons clairs, là, quand Philippe Dano parlait de son rôle qui a changé, c'est pas son rôle qui a changé, c'est ses ailiers qui a changé. C'est quand même, quand il a joué avec Lekkonen et Byron contre Pittsburgh, oui, c'est vrai que peut-être, Claude Julien l'a dit, écoute, je veux que tu vas sur la glace, puis tu permets pas à Crosby ou Malkin, qui que ce soit, à marquer. C'est ce que son job premier était pas de marquer des buts, mais quand même, ce trio-là a quand même passé la plupart de son temps en zone offensive. Philippe Dano a quand même obtenu des mises en jeu en zone défensive autant qu'avant. Il a joué en infériorité numérique autant qu'avant. Il a obtenu les minutes autant qu'avant. Il jouait pas en supériorité numérique comme il faisait pas avant. La seule chose qui a changé dans son rôle, c'est pas son rôle qui a changé, c'est ses alliés. Puis effectivement, tu sais, disons que Tatar et Gallagher sont avec le Canadien pendant des années, là. On sait pas ce qui va arriver dans tout leur cas. Mais je suis convaincu que si Philippe Dano joue avec ces deux gars-là, il va croire que son rôle change pas. Parce que moi, j'ai vu ses commentaires comme pour dire que moi, je veux pas jouer avec des joueurs défensifs. Moi, je veux jouer avec des joueurs offensifs. Mais en termes de rôle, quand tu parles d'un rôle, des tâches qui est donné par l'entraîneur, ça n'a pas changé pantoute quand il était mis avec Lekkonen et Byron. Là. Et sa mission
non,
était...
Non, il a pas joué moins. Là.
Il a pas joué moins, il a même joué plus. Alors, son rôle a pas diminué. C'est juste... Le profil de son trio a changé avec les joueurs avec qui il jouait. Et je pense que c'est juste ça son message. Là. Moi, tu sais, je pense que le message qu'il a envoyé, c'est que j'ai une bonne chimie avec ces deux gars-là. J'ai comme... Puis on est un trio efficace. On est un bon trio. On devrait rester ensemble. Puis c'est ça sensiblement ce que Gallagher a dit. Tu sais, il a dit, tu sais, nous trois, on forme un bon trio. Nos résultats contre les meilleurs trios de la Ligue, personne ne peut argumenter contre ça. C'est clair, c'est net, c'est en noir et blanc. Tu le vois dans les chiffres, tu le vois avec tes yeux sur la glace, ça se voit facilement. Et alors, je crois que, effectivement, si Dano et Gallagher, et disons Tatar, s'il est ici, devient de peu à peu... moins important, comme on disait avant. Ça veut dire que le Canadien, c'est une meilleure équipe. C'est exactement ce que Gallagher a dit. Puis je pense que Philippe Dano serait d'accord. Honnêtement, s'il garde ses ailiers, je pense que tous les commentaires qu'on a entendus il y a 3 semaines, on les aurait pas entendus. Parce que son rôle n'a pas changé du tout. C'est vraiment juste le profil des gars avec qui il jouait. Puis peut-être sa mission qui a changé un tout petit peu, mais honnêtement, est-ce que ça a changé tant que ça? Parce que chaque match, même en saison régulière, je pense que Claude Julien, il regarde Philippe Dano puis il dit « Écoute, toi, tu vas affronter Nathan MacKinnon ce soir-là, j'aimerais ça qu'il ne marque pas. » Tu sais? Est-ce que son rôle change vraiment? Non. Alors, je pense que, tu sais, Philippe, si garde Gallagher au moins, là, on ne sait pas ce qui va arriver avec Tatar, là, mais si ces deux gars-là signent avec Montréal... Puis que Gallagher demeure l'ailier de Philippe Dano, je pense que Philippe Dano va être bien correct avec ça.
Absolument. Ben, il va falloir, ça va être à Marc Bergevin, dans ce cas-là, de renforcer les autres trios, puis de faire en sorte que Suzuki et Kotkaniemi aient des alliés solides avec lesquels ils vont pouvoir contribuer offensivement. Je pense que ça va être, c'est un défi qui va prendre certainement les 12 prochains mois. J'ai hâte de voir, parce que c'est peut-être un des éléments qui nous attend au cours des prochaines semaines. Ça va être intéressant de suivre ça. Je pense que il y a un projecteur braqué sur le cas de Max Domi. Puis je pense que on va peut-être avoir une partie de la réponse dans ce dossier-là au cours des prochaines semaines. Écoute, Arpin, merci beaucoup de ta participation, de notre rendez-vous. Régulier ou super athlétique, toujours apprécié. Puis je vais te souhaiter un bon une bonne suite de séries éliminatoires à Edmonton. Si jamais tu as l'occasion de passer au Sherlock Holmes, profites-en bien. Et puis
c'est en face de mon hôtel.
Oh my God! Hein? Qui a besoin d'aller à Nashville ou à Las Vegas quand dans le fond t'as le Sherlock Holmes direct en avant de chez toi? C'est formidable.
Hey, écoute, on a un peu de breaking news qui se passe en ce moment. Le Wild de Minnesota vient de signer Jonas Brodin à un contrat de 7 ans pour 6 millions par année. Alors une cible de transaction que je pense que beaucoup de personnes pensaient que le Canadien allait poursuivre ou tenter de faire vient de s'enlever du marché de transaction. Puis honnêtement, un bon contrat pour le Wild, 6 millions par année pour Jonas Brodin, c'est pas si mauvais que ça. 7 ans, c'est long, mais quand même, c'est une longue... c'est quelqu'un que je pensais que le Canadien devrait au moins... faire un appel pour voir, pour s'informer sur sa disponibilité, mais là, il va rester à Minnesota. Alors voilà, Jonas Brodin, signé 7 ans, 6 millions par année.
Notre collègue du Minnesota, Michael Russo, disait que c'était davantage, ce qu'il entendait, c'était davantage Matt Dumba, qui était considéré comme étant une cible potentielle de transaction par le Wild, plus que Brodin. Mais moi, si je suis le Canadien, c'est davantage Brodin que j'aurais vu comme étant partie prenante du type de hockey que le Canadien pratique, puis qui a été un bon fit, comme on dit en langage de hockey. Mais oui, 7 ans, 6 millions, c'est certainement une bonne affaire pour tout le monde. Alors, ben bravo, Jonas, tant mieux pour toi. Puis le Canadien, ben ils vont regarder ailleurs. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça règle pas le problème au centre du Wild. Cependant, ils vont quand même devoir se trouver des joueurs de centre pour être compétitifs dans les prochaines années.
Ça, c'est évident. Alors, ouais. Juste avant de quitter, je veux juste rappeler à tout le monde qu'en ce moment, on a comme la meilleure promotion qu'on a eue de l'histoire d'Athletic. Où tu peux t'abonner à notre fabuleux site web où il y a de la couverture de tous les sports et tous les sports qui se jouent en ce moment en même temps. Est disponible en ce moment pour 1,25$ par mois. C'est une offre pour souligner notre d'avoir atteint le million, 1 million d'abonnés à Athletic. Alors ça va être pour un temps limité. Mais si tu pensais peut-être s'abonner et tu savais pas trop, tu voulais pas dépenser trop d'argent, mais là tu as une opportunité de le faire avec une offre qui est très avantageuse. C'est pas un gros montant d'argent, puis ça te donne l'opportunité de tester ce qu'on a. Alors dans le fond, pour accéder à cette offre-là, tu peux aller sur le fil Twitter de Marc-Antoine ou moi et cliquer sur n'importe quel article, puis tu vas l'avoir. Alors c'est une opportunité qui va pas durer longtemps. Alors si tu pensais à s'abonner à Athletic, le moment est propice en ce moment.
Bon, formidable. Ben, merci beaucoup pour ce rappel-là. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve bientôt, le prochain épisode du Athletic Support en anglais. Je ne sais pas trop quand il va avoir lieu, mais au rythme où vont les choses, je pense qu'on ne devrait pas attendre trop longtemps parce que la saison morte n'est pas morte. Alors,
il est bien vivant. C'est la saison vivante.
Bien vivant. Ouais. Exactement. All right, tout le monde. Merci beaucoup. Bye-bye.